7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'être avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Voilà, on a traité pas mal de sujets assez intéressants. On va continuer encore dans quelques minutes avec la chronique de Jean-Luc Gana et puis celle de Ludovine de la Rochère, l'analyse de Jean Messia, la chronique de SOS Chrétien d'Orient. Enfin bref, on a vraiment pas de quoi s'ennuyer pour la suite. Restez bien avec nous. Tout de suite, on écoute Régis Le Sommier.
Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Radio Courtoisie, indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie. Suivez la ligne droite.
Et nous suivons la ligne droite désormais avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis, est-ce que vous êtes bien avec nous?
Oui, je suis bien avec vous, Alexandre.
Bon, alors, bah écoutez, nous, on va faire quelque chose qui est devenu plus très commun ici en France, c'est qu'on vous a invité.
Oui.
Alors, expliquez-nous un petit peu ce qui vous est arrivé.
Et vous ne m'avez pas décommandé au dernier moment. Non, ce qui m'est arrivé était un cas typique d'une décision arbitraire de la part d'un chef d'établissement. La personne s'appelle Jérôme Azé, c'est le directeur de l'IUT de Béziers, qui a décidé d'annuler une conférence à laquelle je devais tenir dans une salle dans son établissement, prétextant qu'il a été mis au courant au dernier moment et que ma personnalité, alors dixit la terminologie utilisée, je serais un journaliste controversé, voilà.
Ah oui.
C'est le terme utilisé. Alors, ce qui est assez terrible, c'est que...
J'ai envie de dire controversé, et alors ?
Oui, ouais. Voilà, et puis controversé, pourquoi, enfin bref, ouais. c'est en fait, bref...
Controversé par qui, oui.
Voilà, d'adjectif disqualificatoire, qui traite d'ailleurs d'une orientation politique de l'établissement, qui en théorie est un IUT, donc un établissement financé par l'État, donc par vos impôts, les miens et ceux de ceux qui nous écoutent, et qui théoriquement, puisque la liberté d'expression est une valeur cardinale dans l'esprit républicain, se doit d'accueillir théoriquement toutes les opinions. Donc ce personnage donc a décidé, se déclarant surpris. Expliquant qu'il a appris au dernier moment ma venue, alors que l'association qui m'accueillait là-bas, une association d'anciens combattants, avait prévenu l'établissement évidemment et préparé une salle. Donc ça a été une forme de d'annulation maquillée et très lâchement annoncée. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elle a lieu exactement, c'est-à-dire au moment où il prend cette décision mardi, il y a quasiment dans la foulée un papier dans le Midi Libre, dont on va dire l'orientation très à gauche n'est plus à démontrer, hein, c'est la propriété de la famille Baillet, donc du radical socialiste du coin, et qui fait un papier reprenant des propos diffamatoires émis contre moi par le journal Libération, d'ailleurs, des propos qui font l'objet d'un recours juridique actuel. C'est-à-dire qu'il y a une plainte déposée contre Libération pour les propos qui sont repris dans le Midi Libre. Donc théoriquement, le Midi Libre pourrait se voir aussi entendre dans ce cas.
Bah vous voyez, c'est pas si mal que vous soyez fait annuler après tout ça. Les conséquences peuvent être merveilleuses.
Allez, les conséquences peuvent être merveilleuses, mais si vous voulez, ce que j'aime dans l'histoire, c'est la concomitance des deux, et surtout, vous êtes Alexandre, comme moi, journaliste, quand il y a une affaire de ce type, on interroge toutes les parties.
Oui.
Évidemment, le Midi Libre interroge donc ce monsieur Jérôme Azé, interroge un certain nombre de personnages, reprend des propos de Libé, mais à aucun moment, le Midi Libre ne me passe un coup de fil.
Mais voilà. C'est normal, vous êtes controversé, Régis Le Sommier.
Je sais, mais être controversé, ça veut dire ne pas avoir le droit de s'exprimer.
Ouais.
C'est là où on atteint des aberrations. Enfin bref, de toute façon, on est dans un procès idéologique. où effectivement l'accusé n'a pas le droit de se défendre.
Et est-ce que j'ai vu qu'il y avait effectivement beaucoup de, il y avait quand même un certain nombre de personnalités, justement des médias alternatifs qui vous avaient défendu. Est-ce que vous avez reçu quand même quelques soutiens institutionnels ou peut-être de Robert Ménard, le maire de Béziers?
Oui, j'ai parlé à Robert Ménard qui m'a appelé hier soir, m'expliquant qu'il n'avait aucune prise sur l'IUT de Béziers et qu'il y avait, et que c'était presque un endroit dans lequel il ne mettait jamais les pieds.
Oui.
Donc oui, il y a eu cette voilà. J'ai également Pascal Pro. On a parlé dans son émission hier avec Gilbert Collard. Bref, voilà, il y a quand même une. Bien sûr, ça m'a fait plaisir parce que cette conférence, je vais vous le dire en toute honnêteté, Alexandre, m'a fait beaucoup de peine. Beaucoup de peine à deux titres. D'abord pour ce que je viens de vivre au Liban. C'est-à-dire 10 jours avec les humanitaires français d'SOS Chrétiens d'Orient. Vous allez leur parler tout à l'heure. Donc, oui. Moi, j'ai vécu avec leurs équipes pendant 10 jours pour constater le travail extraordinaire, et je pèse mes mots, extraordinaire qu'ils font sur le terrain en temps de guerre au Liban actuellement, que ce soit les jeunes volontaires ou les cadres. C'est absolument exceptionnel. On est en train de finaliser un documentaire qui va sortir sur la plateforme Omerta sur ce travail avec d'autres associations humanitaires partenaires qu'ils ont sur place. C'est absolument incroyable. Donc pour ces Libanais, pour ces villages chrétiens du sud du Liban, pour ces petits vieux que j'ai rencontrés qui n'ont pas les moyens de partir, qui subissent la guerre, qui n'ont plus leurs médicaments, s'il n'y a pas les humanitaires qui viennent leur apporter, ils n'ont plus leurs médicaments, ils ne peuvent plus vivre.
En quelques mots, Régis.
Oui. Mais en quelques mots, ce que je veux dire, c'est que témoigner de cela auprès d'associations, donc pour ces Libanais, j'en suis absolument écœuré, et en plus pour les anciens combattants, dont certains ont fait partie de la finule à certaines époques. Donc avoir cet échange sur le Liban actuel, sur la guerre en Iran avec ces anciens combattants, c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur, et à eux aussi, et malheureusement à cause d'une menée idéologique, on vient annuler cette conférence. Alors, je vous dis,
écoutez, on espère que vous trouverez.
Comptez sur moi.
On espère que vous trouverez un moyen quand même de témoigner de cette façon. Merci d'avoir témoigné aussi ici de cette censure sur Ligne Droite. Et
merci,
on vous dit
Alexandre.
Évidemment à très bientôt, Régis.
Ligne Droite.
Et nous retrouvons tout de suite Jean-Eudes Gana. Bonjour Jean-Eudes, comment allez-vous ?
Bonjour Alexandre, très bien et vous ?
Eh bien écoutez, pas trop mal. Alors de quoi est-ce que vous vouliez nous parler aujourd'hui ? Vous m'avez laissé la surprise.
Je vais vous faire une révélation. Wow. Est-ce qu'on vous a déjà dit que j'étais raciste ?
Alors j'ai bien dû l'entendre une bonne centaine de fois, mais dites-nous quand même.
Eh bien, vous le savez quoi, je veux dire, je suis raciste, vous êtes raciste, tout le monde est raciste. C'est le grand malentendu de notre époque. N'est plus raciste seulement celui qui hiérarchise les races ou en déshumanise certaines. N'est plus raciste seulement celui qui déteste, insulte ou persécute un individu en fonction de sa race. Le sont tous ceux qui auraient des préjugés, qui essentialiseraient, même en bien d'ailleurs, un groupe ethnique. Tous ceux qui oseraient faire une blague ou qui, dans une BD, feraient un dessin avec des stéréotypes. On l'a vu avec Ruffin récemment. Alors, le préjugé et le stéréotype qui sont donc à l'origine, des généralités tirées de l'expérience des générations antérieures, sont devenues des crimes. Durant des décennies, encore aujourd'hui d'ailleurs, dans n'importe quelle fête de village, ou au bistrot, ou au boulot, on entend des gens avec des phrases à la fois bêtes et en même temps pleines de sagesse, telles que « il faut se méfier de tel ou tel groupe ethnique ». Mais attention, ils ne sont pas tous comme ça. Moi, j'ai un voisin, il est super. Voilà. Et aujourd'hui, ça, c'est condamné. En clair, autrefois, ou en tout cas dans la masse populaire, on a une opinion sur tel ou tel groupe ethnique, pleine de préjugés, mais on la tempère par l'expérience positive qu'on a avec des individus. aujourd'hui, la loi et les gauchistes voudraient nous sommer de faire autrement. Il faut aimer inconditionnellement et sans préjugés tous les groupes ethniques, quitte à finir violé dans une cage d'escalier, agressé dans la rue ou trucidé lors d'un concert, faute de préjugés protecteurs. Voilà. Parce que ces préjugés protecteurs, ce racisme, sont devenus le crime absolu de notre époque. En être taxé, c'est se voir marqué du sceau de l'infamie. Dans notre société déchristianisée, Dieu ne vous invite plus à aimer votre prochain, parce qu'on n'entend même plus parler de Dieu, mais la Ligue des droits de l'homme peut vous imposer d'aimer l'humanité tout entière, sans déroger à la règle, d'aimer toute l'humanité. Non, bien sûr, pas toute l'humanité, hein. Pas le village gaulois qui résiste encore toujours à l'envahisseur. Celui-là, vous pouvez le haïr, l'écraser, le diffamer. Et pas seulement lui, d'ailleurs, tous les Blancs qui s'écarteraient du chemin. Parce que désormais, tout le monde est raciste. Jean-Luc Gana, Tonton Dédé, Patrick Sébastien et même François Ruffin. Le souci, c'est qu'on a tellement intériorisé ce nihilisme absolu qu'est l'antiracisme, tellement pratiqué l'autocensure par crainte d'être rejeté dans le camp des racistes, qu'on en vient à préférer voir des Blancs se faire massacrer plutôt que de courir le risque de l'anathème. Et je parle là au sens littéral. Est-ce que vous vous souvenez de l'affaire de Michael Sturzenberger, le militant anti-islam en Allemagne ?
Ah non, je suis désolé, celle-ci m'échappe malheureusement.
Alors en 2024, il se fait attaquer au couteau par des islamistes.
Ah oui, oui, oui.
Et lorsque la police arrive, elle s'attaque non pas aux militants islamophobes, non pas aux terroristes, mais aux militants islamophobes. Voilà.
Il y a une affaire récente comme ça en Angleterre aussi.
Exactement, mais là je vais en parler. On a tellement intériorisé l'antiracisme et que les préjugés c'était pas bien, que quand on voit un arabe avec une grosse barbe avec un couteau sur quelqu'un au sol, eh bien on se dit il faut d'abord menotter la victime, voilà, plutôt que le potentiel agresseur. Et là on a eu l'affaire qui est en train de sortir de Henry Nowak, hein, dans le monde anglo-saxon, ce jeune homme qui n'était certainement pas un criminel, qui était étudiant d'université voilà, du groupe Russell, qui a filmé, il a vu un Indien sortir avec un grand couteau de 20 ou 25 cm. Il l'a filmé en se demandant ce qui se passait. L'Indien l'a vu, l'a attaqué, l'a poignardé. Mmh. Et lorsque la police est arrivée sur les lieux, elle a menotté ce gamin agonisant plutôt que les agresseurs, parce que les agresseurs ont dit, il nous a dit des choses racistes. Donc les policiers se sont dit, s'il est raciste, quoi qu'en état de mort ou d'agonie, c'est lui qu'il faut arrêter. Ouais. Voilà. Et la presse n'en parle pas. La grande leçon de ce pauvre Henry Nowak ou de Michael Sturzenberger, d'ailleurs le policier qui avait menotté le militant anti-islam plutôt que le terroriste, a fini poignardé. Ouais. Voilà, comme une allégorie du monde européen actuel. La grande leçon de tout ça, c'est qu'Henry Nowak a été poignardé par un Indien parce qu'il était blanc, il a été menotté par des flics parce qu'il était blanc, et il est occulté par la presse, et on ne parle pas de son martyr, parce qu'il est blanc. Mmh. Voilà où nous mène l'antiracisme.
Et puis on pourrait même parler de l'affaire des grooming gangs aussi en Angleterre, où on sait que énormément donc, de policiers, de membres des forces de l'ordre en général, se sont tus par antiracisme, parce qu'ils ne voulaient pas stigmatiser une population.
Tout à fait, et on s'étonne après qu'il y ait des réveils populaires parfois excessifs. Or, en réalité, ce qui fait monter le racisme en France, c'est l'antiracisme, c'est la censure, c'est la chape de plomb et c'est l'immigration. Voilà. Il y avait une affiche du FNJ qui était marrante quand on était jeune, ou un autocollant, contre le racisme, halte à l'immigration. Hmm. Eh bien, c'est du bon sens. Si on veut réduire les poussées racistes, si je puis dire, il suffit de revenir à des politiques de bon sens et de préjugés, parce qu'en fait, dans tous les pays du monde, on sait qu'accueillir une population d'une autre ethnie et d'une autre religion de manière massive, ça va causer des soucis. Ouais. Il n'y a qu'en Occident qu'on s'interdit de le dire et de le penser.
Ouais, et puis d'autant qu'en plus, encore une fois, les préjugés, c'est toujours à géométrie variable, dans le sens où on a le droit d'en avoir sur certaines catégories de la population, effectivement, vous l'avez dit, même certains peuples, hein, on pourrait très bien dire qu'on a des préjugés sur les Allemands, sur les Italiens, sur les Anglais, etc. Et ça pose pas tellement de soucis. En revanche, effectivement, dès qu'on touche à d'autres continents, là tout de suite, on devient, comme vous, Jean de Gana, on devient un sale raciste.
Ouais,
merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Eudes, ce matin, et on vous dit bien sûr à la semaine prochaine ici sur Ligne Droite. Oui, et donc désormais la chronique de Ludovine de la Rochère, si jamais Arnaud veut bien faire quelque chose.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la Ligne Droite.
Bonjour Ludovine de la Rochère.
Bonjour Alexandre.
Alors, de quoi nous parlez-vous ce matin ?
Alors, plusieurs sujets. L'actualité est toujours, comme toujours, très dense sur les questions de société et de famille. Le premier sujet, c'est la fin de vie. Mmh. Je reçois en effet de très nombreux messages de personnes syndiquées ou sympathisantes du syndicat de la famille, mais aussi, je dois le dire, de journalistes et d'autres professionnels qui veulent savoir si c'est plié sur la légalisation de l'euthanasie ou s'il est encore possible de l'éviter. Alors je vais donc essayer ce matin d'éclaircir la situation qui est de fait assez inédite. Alors du côté du Parlement d'abord, l'Assemblée nationale a donc voté deux fois en faveur du texte visant à légaliser la mort par injection létale. Le Sénat, en revanche, l'a rejeté deux fois. Alors je précise tout de suite que ce n'est pas parce qu'une majorité de sénateurs est absolument contre l'euthanasie. C'est en réalité parce que les deux fois, les débats préalables des sénateurs les avaient conduits à restreindre l'accès à l'euthanasie, ce qui a conduit finalement les sénateurs progressistes à voter contre le texte, par dépit, et ceux qui sont conservateurs, qui ne veulent pas du tout de l'euthanasie, à voter contre, puisque l'euthanasie figurait tout de même encore dans le texte. Ainsi, c'est cette convergence de voix divergentes qui a conduit ces deux rejets par le Sénat.
Alors, quelle est la suite ?
Alors, au bout de deux lectures par chambre, techniquement, le Premier ministre a la possibilité de convoquer une commission mixte paritaire, dite CMP. Composée de 7 sénateurs et 7 députés, elle a pour mission de chercher un compromis susceptible de convenir aux deux chambres. Jusque-là, c'est très classique. Sauf que politiquement, réunir une CMP serait aberrant parce qu'Emmanuel Macron s'était engagé avec insistance à co-construire sur ce sujet. Co-construire. Cela veut dire qu'il devrait laisser se poursuivre la navette parlementaire jusqu'à la troisième, quatrième lecture, puis mettre un terme au projet si les deux assemblées ne co-construisent pas comme il dit. Hélas, nous le savons tous, rien ne le gêne, et surtout pas de se contredire et se dédire. Ainsi, avant-hier, mardi, le Premier ministre a officiellement convoqué une CMP. Mais, cependant, à ce jour, ni la date de la réunion, ni la composition de la CMP ne sont déterminées. On est donc dans un autre deux. La CMP est convoquée, mais sans effet.
Mais il y a aussi un projet de référendum lancé par le sénateur Francis Spinner. Où en est-il et peut-il arrêter ce processus ?
Alors oui, en effet, et c'est même un joli succès. Plus de 200 parlementaires ont co-signé la proposition de loi référendaire de Francis Spinner. Vous vous en rappelez sans doute, nous avions appelé les auditeurs de Radio Courtoisie à interpeller les sénateurs pour qu'ils co-signent. Et bravo, il fallait parvenir à 185 co-signataires, qu'ils soient députés ou sénateurs, et l'objectif a bien été dépassé. Bonne nouvelle. La présidence du Sénat l'a donc transmise lundi au Conseil constitutionnel et celui-ci a un mois pour confirmer la validité de ce projet de référendum, soit jusqu'au 18 juin. Ceci dit en précisant qu'une fois cette étape passée, si elle est passée, il faudra que 4,7 millions de Français soutiennent ce projet pour qu'un référendum soit effectivement lancé.
Oui.
Mais en réalité, ce n'est pas véritablement l'objectif. L'objectif, c'est de gagner du temps. Jusqu'à ce qu'on rentre, en fait, à partir de la rentrée dans la campagne de la présidentielle. Donc, je récapitule. Nous avons d'un côté un processus parlementaire en cours, à l'arrêt à ce jour. Il peut néanmoins reprendre si demain matin, par exemple, une date est fixée pour la CMP. Et s'il y a une CMP, comme elle échouera, il y aura une nouvelle lecture à l'Assemblée nationale, puis au Sénat. Et si les deux assemblées sont toujours en désaccord, l'Assemblée nationale pourrait alors avoir le dernier mot, le fameux dernier mot. Sauf que tout cela suppose du temps dans l'agenda parlementaire, lequel est surchargé au point qu'une session extraordinaire en juillet est déjà prévue à l'Assemblée nationale. Mais session extraordinaire que, de son côté, le président du Sénat refuse en raison des élections sénatoriales du mois de septembre. Donc techniquement, le processus parlementaire peut se poursuivre et même aller vite. C'est ce que ne cesse de clamer Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, et Laurent Panifous, le ministre des Relations avec le Parlement. Il semble pourtant qu'ils soient en réalité tous les deux extrêmement inquiets et que leurs affirmations visent plutôt à mettre la pression sur ceux qui décident, à savoir Sébastien Lecornu, c'est-à-dire Emmanuel Macron. Et quant au projet de référendum, techniquement, il peut avancer en parallèle du processus parlementaire, selon la réponse du Conseil constitutionnel, lequel est présidé par Richard Ferrand, je le rappelle. Pour autant, ces 200 co-signataires de parlementaires et cette saisine du Conseil constitutionnel exercent bien réellement une pression politique sur ceux qui décident, Premier ministre, Président de la République, je l'ai dit, mais aussi le Grand Orient de France, dont le suicide assisté et l'euthanasie sont l'un des objectifs prioritaires depuis 1979.
Alors que faire ? À qui faut-il s'adresser, Ludovine de la Rochère ?
Alors je vous propose une action très simple. Montrer massivement que les Français n'en veulent pas. Et pour cela, je vous donne rendez-vous sur X, sur le compte du syndicat de la famille. Retweetez, likez notre message d'hier de 9h41. Nous répondions en effet à Yaël Braun-Pivet, qui ne cesse de prétendre, et là c'était sur France Inter, qu'il y a une attente très forte des Français. Nous avons donc tweeté « mensonge ». Les Français ne réclament pas cette loi. Jamais une manifestation ou un événement de l'ADMD n'a rassemblé plus de quelques personnes. Soutenez notre réponse, donnez-lui de la visibilité.
Je viens de le faire, Ludovine de la Rochère, à l'instant.
Ouais. Je vous en remercie, Alexandre. De fait, on ne peut plus laisser la présidente de l'Assemblée nationale mentir éhontément parce qu'elle veut, elle, et l'éloge, la légalisation de l'euthanasie. Et si vous n'êtes pas encore sur X, chers auditeurs, ce n'est pas grave. Créez votre compte, cela prend 2 minutes et soutenez nos communications. Vous pourrez d'ailleurs aussi, et ce sera formidable, relayer celle de Radio Courtoisie.
Absolument. Alors, vous m'avez évoqué aussi, avant de rentrer en studio, l'actualité de l'AGPA. Rapidement, si vous le pouvez, Ludovic de la Rochère.
Alors oui, outre la déclaration absolument scandaleuse de Franck Riester, qui soutient Gabriel Attal, qui veut légaliser la GPA dite éthique, un soutien totalement aberrant, puisque évidemment, la GPA en aucun cas ne saurait être éthique, c'est un oxymore, exploiter des femmes pour produire des enfants au profit de tiers pour des hommes qui se disent féministes, c'est tout de même un comble, mais nous aurons l'occasion d'en reparler. Je voulais vous dire aussi qu'une audience très importante se tiendra demain, vendredi, à la Cour de cassation. Pour faire court, la Cour de cassation avait rendu des arrêts en octobre et novembre 2024 qui rendaient possible la reconnaissance par la France d'un lien de filiation entre deux adultes et l'enfant qu'ils ont commandé à une mère porteuse. En l'occurrence, il s'agissait d'un énième moyen de contourner l'interdit français, une procédure d'exequatur. Je vous passe les détails, mais la Cour de cassation avait validé. Mmh. Or, la Cour de cassation est la première à être supposée respecter la loi. Et il se trouve que la loi de bioéthique du 2 août 2021, avait mis un coup d'arrêt à ce type de décision judiciaire parce qu'elle stipulait que le juge devait juger au regard de la loi française. Mmh. Mais le procureur, près la Cour de cassation, a fait appel. Ce qui fait que demain, c'est cette fois-ci la Cour de cassation en assemblée plénière qui va revenir sur cette question d'apparence très technique, oui, mais en vérité humainement et sur le plan de la jurisprudence extrêmement important. Donc la Cour de cassation va prendre une décision qui sera assez déterminante pour l'avenir. Soit elle stoppe l'extension de la GPA, soit elle la favorise. Finalement, comme pour la fin de vie, l'affrontement en coulisses est en ce moment même majeur et son résultat sera déterminant pour l'avenir des personnes vulnérables, qu'elles soient en début de vie ou en fin de vie. Leur issue nous dira donc si la civilisation régresse ou se défend encore un peu.
Merci beaucoup, Ludovine de la Recherche. Précise d'ailleurs, on a fait un petit sondage parmi nos auditeurs. 52% d'entre eux pensent que la GPA finira par être légalisée en France. Mais grâce à vous, on va quand même garder espoir. Merci beaucoup, Ludovine de la Recherche. Et à la semaine prochaine, ici, sur Ligne Droite.
Ligne Droite, l'analyse.
Nous retrouvons donc Jean Messia pour son analyse, comme tous les jeudis. Bonjour Jean, comment allez-vous ?
Bonjour Alexandre, ça va très bien, et vous-même ?
Eh bien écoutez, je passe une excellente matinale pour tout vous dire, mais je crois que vous voulez absolument nous fâcher avec la justice française en défendant le Bambini. Alors je précise, je donne un petit peu de contexte. Hier a été publié un article par Le Parisien accusant un restaurant du 16e arrondissement, donc le Bambini, de racisme banlieusard quelque part, où en réalité, eh bien, finalement, il y aurait une forme de ségrégation qui s'installerait entre les Français de souche, disons, et puis les Français d'origine immigrée. Et ça veut dire que, Jean, vous-même, si vous vous rendez au Bambini, vous subirez du racisme, non ?
Pas du tout, parce qu'il faut d'abord quand même rappeler avec un peu de précision ce qui s'est exactement passé. D'abord, tout a commencé par une vidéo postée par la personne, une femme en l'occurrence, qui se dit victime de racisme dans ce restaurant. Une vidéo qui a quand même été vue près de 4 millions de fois.
Oui.
Donc, c'est pas rien. C'est aussi pour ça que j'ai voulu parler de ce sujet ce matin. C'est que des millions de personnes, la vidéo était virale. Le Parisien, évidemment, il ne parle pas de choses qui ne le sont pas, ou en tout cas dont personne n'a entendu parler. Donc, c'est une affaire qui a l'air un peu sérieuse au vu de son audience. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé ? Une femme, donc manifestement d'origine maghrébine, veut fêter l'anniversaire de sa sœur dans ce restaurant très huppé de la capitale parisienne, du 16e arrondissement, qui se situe au sein du Palais de Tokyo, dans le 16e, non loin du Trocadéro. Donc, elle dit qu'elle a réservé avec son nom d'origine, que la réservation n'a pas été acceptée. Elle réserve à nouveau avec un autre nom. Et là, la réservation est acceptée. Bon, elle dit quand même que quand elle arrive dans le restaurant, alors pourquoi elle dit que peut-être que sa première réservation n'a pas été prise en compte, c'est une possibilité. C'est une possibilité d'ailleurs qui sera confirmée par l'accueil qui lui sera réservé quand elle arrivera avec ses convives au restaurant, puisque elle-même dit qu'elle a été très bien accueillie.
Oui.
Donc, je ne comprends pas comment un restaurant qui discrimine les gens sur des patronymes va tout à coup les accueillir à bras ouverts une fois qu'il les verra. Bon, ça ne tient pas la route. Alors, là où les choses deviennent un peu plus légèrement, un peu plus corsées, c'est qu'effectivement, cette femme, donc, qui est avec ses convives dans un restaurant du 16e arrondissement, s'étonne que la viande servie ne soit pas halal. Et elle dit, le serveur m'a regardé de manière bizarre. C'est quand même extraordinaire. Alors, excusez-moi, pour répondre à votre question, non, je n'aurais pas été victime de racisme, parce que moi, j'aurais réservé au nom de Jean Messia, déjà, même si je n'étais pas quelqu'un de particulièrement connu, Jean Messia, bon, ben voilà, je pense que la réservation aurait été prise, et surtout, ni un chrétien, ni un juif ne va demander des particularités alimentaires.
Arrêtez,
si
non, mais on vous connaît, vous auriez demandé si c'était halal, et si ça avait été halal, vous n'auriez pas mangé, c'est ça?
C'est ça, exactement. Exactement, vous me connaissez parfaitement, mon cher Alexandre.
D'ailleurs,
imaginez, parce que bon, je veux dire, les musulmans de France, à chaque fois que vous leur dites, enfin, certains musulmans, quand vous les mettez en face de leur suprémacisme ou de leur comportement, immédiatement, ils disent « Ah, mais pour les Juifs !»« Ah, mais pour les Juifs !»« Ah, mais pour les Juifs !» Mais allons-y, alors, dans ce cas-là. Quel Juif entre dans un restaurant, n'importe quel restaurant, et exige ou s'étonne qu'il n'y ait pas de repas cachère? Personne. Donc, si vous voulez… attention, hein, je ne reproche pas à cette femme de vouloir manger de la viande halal. C'est son droit le plus absolu. Je ne me permettrai pas de critiquer sa religion sur ce point. Mais, je veux dire, aller dans un restaurant dont on sait pertinemment, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, on sait pertinemment que les restaurants du 16e arrondissement, qui sont des restaurants internationaux, qui sont des restaurants qui accueillent toutes les clientèles,
ce que vous êtes en train de dire, Jean Messia, c'est que finalement, cette jeune femme a intégré le fait que la consommation normale de viande en France, c'est la consommation halal.
D'une part, et je pense que c'est pire, je pense qu'il y a, comme toujours, hein, une forme de provocation suprémaciste, islamique, qui vise en fait à bousculer nos habitudes, à bousculer nos mœurs, à aller, passez-moi l'expression, foutre la merde, pour ensuite se prévaloir de l'islamophobie. Voilà. Donc en fait, sa réaction à elle, c'est sa réaction à elle qui est francophobe. C'est pas la réaction du personnel du restaurant qui est islamophobe.
En fait, ce qui est assez surprenant, je trouve, dans cette affaire, c'est quand même que elle se comporte vraiment comme si la France était un pays musulman. Et en fait, elle est presque choquée que ce soit pas le cas.
Exactement. Exactement. Et elle sait pouvoir compter, évidemment, sur un tentacule de la Oumma qui pèse entre 10 et 15 millions de personnes et qu'elle va, évidemment, au sein duquel elle va attiser la haine de la France, parce que la seule haine qu'on attise véritablement, c'est la haine de la France. Toutes les autres haines sont des haines fantasmagoriques qui visent à tapir la véritable haine et l'unique haine qui est celle de la France et de l'identité française.
Jean-Messia, pour le coup, ça c'est un point sur lequel dont vous avez déjà parlé à plusieurs reprises et avec lequel je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous non plus. C'est-à-dire que sans aller jusqu'à, effectivement, je ne suis pas de gauche, je n'hurle pas au racisme du matin au soir, etc. Mais en revanche, pour moi, si vous voulez, le racisme, c'est un petit peu comme la question des violences policières. C'est-à-dire que, en réalité, c'est des choses que la gauche essaye de faire passer de manière systémique, en grand phénomène de société, mais dans le fond, les nier absolument, c'est pas non plus vrai. Dans le sens où, oui, en France, il y a des gens qui sont racistes. Oui, comme, encore une fois, je reviens, oui, comme il y a des policiers qui sont violents. L'erreur, selon moi, de la gauche, c'est de mettre ça de façon systémique, mais nier absolument l'existence du racisme anti-noir, anti-arabe, anti-chinois, c'est pas forcément non plus... Enfin, vous savez bien que ça existe quand même, même si c'est très faible.
Alors, je distingue deux choses. Un peuple envahi et islamisé a des réactions instinctives. Et ce qui est instinctif est toujours violent. Vous savez...
Ça n'en est pas moins condamnable, Jean-Messia.
C'est peut-être condamnable, mais si on veut vraiment le condamner, il faut couper les origines et les causes véritables du racisme.
C'est Jean-Luc Gana qui nous en parlait il y a quelques minutes en nous rappelant ce slogan du FN dans les années 2000 qui était « Lutter contre le racisme, baisser l'immigration ».
C'est ça, exactement. Parce qu'aujourd'hui, Alexandre, aujourd'hui, être raciste, c'est quoi ? C'est quand même, vous pouvez convenir que c'est une accusation qui est lancée à tort et à travers à chaque fois qu'on fait la moindre moue sur un problème migratoire. Aujourd'hui, être raciste, c'est juste refuser que son pays devienne africain. Voilà. Donc, je ne dis pas, si vous voulez, il y a évidemment... Mais si vous parlez d'un racisme résiduel, il existe, et je suis d'accord avec vous, mais il existe tout aussi bien dans toutes les autres cultures. Oui. Vous croyez que les Maghrébins sont pas racistes ?
Vous croyez que les Noirs sont pas racistes ?
Voilà. Donc, si vous voulez, à cette aune-là, le peuple français n'est pas exorbitant du droit commun des autres peuples. Oui. Mais accabler le peuple français d'un racisme qui serait précisément, qui irait au-delà du racisme qu'on constate chez les autres peuples, qui serait le peuple français, qui serait un peuple abject, un peuple haineux, un peuple, comment dirais-je, qui refuserait absolument l'altérité, ça me paraît quand même invraisemblable et tellement honteux, alors que la France, aujourd'hui, à force de centaines et de centaines de milliers d'immigrés qui viennent chaque année en France, on en arrive à un point où l'immigration, ceux qui sont les Français qui sont d'origine immigrée, représentent près du tiers de la population française. Il faut quoi d'autre comme argument pour se justifier de ce foutu racisme dont on cherche à nous affabuler en permanence ? Enfin, excusez-moi, si la France était un pays raciste, d'abord, on n'aurait pas le nombre d'immigrés qu'on a sur notre territoire. Et si la France était un pays raciste, il n'y aurait pas des centaines de millions de personnes à travers le monde qui envisageraient, ou même parfois au péril de leur vie, de venir s'y installer. Oui. Donc il faut arrêter avec cette fable. La France n'est pas un pays raciste, c'est le contraire du racisme.
L'argument des gauchistes, Jean Messia, dans ce cas-là, c'est de dire qu'ils sont tellement dans la misère dans leur pays qu'ils préfèrent venir dans un pays raciste.
Exactement. Mais pourquoi ils n'iraient pas ? Alors, même si on prend cet argument, il y a des pays musulmans qui sont riches, très riches même, bien plus riches que la France. Pourquoi ils ne vont pas dans les pays du Golfe ? Et ils seraient quand même dans leur univers civilisationnel, personne ne les regarderait de travers s'ils portent le voile, personne ne les regarderait de travers s'ils portent le burkini, personne ne les critiquerait dans un restaurant parce qu'ils réclament du halal, ça, les choses se passeraient très bien, et en plus ce sont des pays qui ont les moyens de les accueillir. Qu'ils y aillent. Si la France était un pays raciste et islamophobe, je veux dire, pourquoi les musulmans préféreraient en majorité, les musulmans réfugiés préféreraient en majorité venir s'y installer alors qu'ils ont d'autres cieux bien plus cléments pour leur culture et leur civilisation pour s'y installer ? C'est quand même assez incompréhensible, à moins qu'on nous parlions de gens masochistes. C'est peut-être vrai. Ils veulent, par crise de masochisme, ils veulent peut-être venir s'installer dans un pays qui va les ségréguer, les discriminer et les haïr, ce que je ne pense pas. Encore une fois, en France, un musulman en France, il a plus de droits et plus d'aides et plus de privilèges que dans n'importe quel pays musulman au monde. Donc il faut arrêter avec ces accusations mensongères.
Bon, alors Jean Messia, on va clore un petit peu le sujet parce qu'on a fait la plupart de l'entretien là-dessus. On va terminer avec le deuxième point que vous vouliez aborder. Alors là, bon, vous n'allez pas vous faire des amis encore. C'est-à-dire que vous vouliez qu'on parle de la flottille qui a donc été arrêtée en Israël, une nouvelle flottille, notamment le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a condamné les agissements donc du ministre Itamar Ben-Gvir contre les passagers de la flotte. En réalité, Jean Messia, on se doute que vous allez vous insurger, mais je rappelle quand même que Giorgia Meloni, qui est quand même pas franchement une gauchiste, elle a également condamné ce qui était arrivé à ses passagers. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ben moi, je condamne surtout ces flottilles qui sont d'une hypocrisie absolument terrifiante et absolue. En réalité, ces flottilles sont organisées par des partis d'extrême gauche, notamment des LFI, puisque de nombre de députés LFI accompagnent ces flottilles en permanence. Ce sont des actions à travers lesquelles l'extrême gauche et LFI en particulier veut donner des gages à la Oumma pour dire aux membres de la Oumma en France: rassurez-vous, votre allégeance est la nôtre et votre combat est le nôtre. Vous pouvez voter pour nous, votez pour nous. C'est comme si vous votiez pour l'un des vôtres. Voilà ce que ça veut dire, le sens politique de ces flottilles qui n'ont rien à voir avec l'humanisme et tout à voir avec l'islamo-collaborationnisme de l'extrême gauche en France qui veut maintenir ses prébendes électorales à tout prix. Ils sont élus dans des territoires où il n'y a plus d'allégeance française. Ils sont élus dans des territoires où l'allégeance islamique est l'allégeance majoritaire, sinon unique. Donc, pour pouvoir perpétuer, si vous voulez, leur mandat, ils sont obligés de faire cause commune avec la Oumma. Quant à Jean-Noël Barrot, excusez-moi, imaginez une flottille qui serait allée en Iran, par exemple, qui porterait la cause des femmes iraniennes qui sont torturées pour n'avoir pas porté le voile et assassinées. Vous croyez vraiment que Jean-Noël Barrot convoquerait l'ambassadeur d'Iran à Paris pour lui exprimer? Moi, je pense pas, parce que je pense qu'il, encore une fois, j'ai toujours dit...
Attendez,
quand
même, Jean-Noël Barrot n'est pas complaisant avec l'Iran non plus.
Attendez, il a convoqué l'ambassadeur de Syrie à Paris, après que des Alaouites, des chrétiens, des femmes aient été brutalisées, après que des milices dont on sait que le président actuel syrien en est issu. Pourquoi le Jean-Noël Barrot n'a jamais convoqué l'ambassadeur syrien?
Vous pensez que Jean-Noël Barrot est complaisant avec l'islamisme?
Il est pas complaisant avec l'islamisme, il est complaisant avec l'islam. Jean-Noël Barrot n'est que la face modérée de LFI. En fait, je vous ai toujours dit qu'entre le macronisme et les LFI, il n'y avait pas, sur la question de l'identité, la question de l'islam, il n'y avait pas une différence de nature, il y avait une différence de degré. Donc évidemment que lorsque, par exemple, Emmanuel Macron reconnaît précipitamment l'État de Palestine, c'est pas pour satisfaire l'électorat français de souche ou l'électorat français de cœur qu'il le fait. Enfin, je veux dire, il faut quand même être assez naïf pour le croire. Il le fait pour donner des gages aux tentacules français de la Oumma. Vous savez, Pauvre Monti, le spécialiste de l'immigration, a eu un chiffre hier qui m'a sidéré. 27,5% du corps électoral français aujourd'hui est d'origine immigrée, mon cher Alexandre.
Oui.
C'est un chiffre quand même qui interroge, et dans cette immigration, c'est pas des catholiques et des protestants, si vous voyez ce que je veux dire. Il y a une grosse majorité d'électorats musulmans dans ces 27,5%. Donc 27,5% sur un corps électoral, si vous voulez, qui pèse 40 ou 42 millions d'électeurs, ça fait près de 8 millions d'électeurs.
Qu'est-ce que vous pensez, c'est un petit peu lié à ça, Jean Messia, mais le fait que le président sénégalais, qui avait été soutenu par Jean-Luc Mélenchon, vient de criminaliser l'homosexualité?
J'ai déjà eu l'occasion, je crois, de le commenter, parce que le président sénégalais rappelle juste qu'au Sénégal, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et que à s'enticher, si vous voulez, des causes que l'on juge les plus belles parce qu'elles sont les plus lointaines, eh bien, on se prend des boomerangs dans la figure.
Oui.
Voilà. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon, on ne l'entend plus d'ailleurs sur la question, je pense qu'il doit être aux champignons, depuis qu'on a entendu ça. Je n'ai pas non plus vu la France insoumise, parce que la France insoumise, si vous voulez, elle est aussi très discrète sur la question de l'homosexualité, parce que l'intersectionnalité des luttes, c'est aussi l'intersectionnalité des haines. et gérer l'intersectionnalité des haines n'est pas toujours
alors,
aisé.
Manon Aubry s'est exprimé sur le sujet en coupant les commentaires sur X.
Ah bah bien sûr. Ben bien sûr, parce qu'elle se serait pris une volée de voyeurs. On ne peut pas concilier un électorat islamique dont originaire d'un certain nombre de pays, dont certains balancent les homosexuels par-dessus les toits, et venir faire cause commune avec les homosexuels en France. L'intersectionnalité des luttes, elle se gère, mais au prix d'une coupure de commentaires, ouais, pour pas qu'on voit que c'est ingérable, en fait. On ne peut pas à la fois soutenir l'islam, y compris sa frange la plus radicale, pour donner des gages à l'électorat islamique, et en même temps soutenir
Jean-Messier, il y a une solution. Il suffit d'être 100% français et 100% étranger.
Mais ça, c'est pas possible. Mais... On peut pas avoir... Moi, je crois pas dans la double... On peut avoir un amour, effectivement. Moi, j'ai pas de problème, si vous voulez. Je pense que la binationalité a été une bêtise.
Oui.
Je pense que... Pourquoi
en
tout
un mot, Jean-Messier.
Oui, en un mot. Juste, évidemment, que quand on parle de la binationalité, on parle pas des Libanais, par exemple. Ni même des Israéliens, parce que les Israéliens qui aiment Israël, ils ne haïssent pas la France. Ils ne veulent ni israéliser la France, ni judaïser la France, et tout ça. La binationalité est devenue un problème avec le regroupement familial et avec la politique de naturalisation délirante qui a grimé en français des gens qui, en réalité, n'ont rien à voir avec la France et n'ont aucune allégeance vis-à-vis de la France. La question, le problème de la binationalité a été généré par la politique de naturalisation, mais c'est pas à la base un problème en soi, dès lors qu'il ne concerne qu'une petite minorité de personnes et qui en plus ont une allégeance à la France.
C'est comme l'immigration, c'est comme l'assimilation, la quantité devient une qualité, comme le répète souvent le président de votre parti, Éric Zemmour. Merci Jean Messia d'avoir été avec nous ici ce matin et on vous dit évidemment à la semaine prochaine pour votre prochaine analyse.
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr. Ligne droite. La chronique de l'Orient simplifié.
Et la chronique de l'Orient simplifié aujourd'hui, c'est avec François-Xavier Jiquel. Bonjour François-Xavier.
Bonjour Alexandre.
Alors, aujourd'hui, vous nous parlez de la Géorgie.
Oui, alors aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce petit pays dont on a déjà parlé, la Géorgie. Il y a quelques mois, j'évoquais les élections géorgiennes, les accusations d'ingérence et cette étrange conception de la démocratie qui consiste à respecter le vote des peuples uniquement lorsqu'ils votent dans le bon sens. Aujourd'hui, ce n'est pas par les urnes que je voudrais revenir sur la Géorgie, mais par l'autel. Car le pays vient de tourner une page majeure. Le patriarche Élie II est mort à 93 ans, après avoir dirigé l'église orthodoxe géorgienne pendant près d'un demi-siècle. Élie II était devenu patriarche en 1977, à l'époque soviétique. L'église géorgienne sortait alors de décennies d'athéisme officiel, de la marginalisation et de persécution. Sous son patriarcat, elle est redevenue l'une des institutions les plus respectées du pays. Il a accompagné la Géorgie dans tous ses grands bouleversements récents, la fin de l'Union soviétique, l'indépendance, les violences du Caucase, la guerre avec la Russie, puis la perte de contrôle de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud. Pour beaucoup de Géorgiens, Élie II n'était donc pas seulement un chef religieux, il était une figure nationale presque paternelle. Un homme qui avait porté la mémoire spirituelle du pays au moment même où celui-ci retrouvait sa liberté politique.
Alors pourquoi cette succession est-elle si importante ?
Alors parce qu'en Géorgie, l'église n'est pas une institution parmi d'autres. Elle est l'un des piliers de l'identité nationale. La Géorgie est l'un des plus anciens pays chrétiens au monde. Sa foi, sa langue, ses monastères et ses martyrs ont façonné sa mémoire collective. À travers les invasions, l'Empire russe puis le communisme soviétique, l'Église a souvent été ce qui permettait au peuple géorgien de rester lui-même. Élie II avait reçu une Église affaiblie par le communisme, il laisse une Église forte, écoutée, redevenue centrale dans la vie nationale. C'est cette Église que reçoit aujourd'hui son successeur, Shio III. Le 11 mai dernier, le métropolite Shio Mujiri a été élu nouveau catholicos patriarche de toute la Géorgie. Né en 69, il n'était pas un inconnu non plus. Dès 2017, Élie II l'avait désigné comme locus tenens, c'est-à-dire gardien du trône patriarcal en cas de vacances. Son parcours est intéressant. Ancien violoncelliste devenu moine, puis évêque, il a exercé en Géorgie, notamment dans l'ouest du pays, mais aussi auprès des paroisses géorgiennes d'Australie et de Nouvelle-Zélande. Il connaît donc à la fois la Géorgie enracinée et la réalité de la diaspora, aussi importante soit-elle dans la réalité géorgienne. Il faut ajouter un point important, Shio III n'est pas un profil progressiste ou technocratique, Il est identifié comme une figure de continuité conservatrice, attachée à la famille, à la natalité et à la défense de l'identité chrétienne géorgienne. Il a notamment été associé à des initiatives en faveur du renouveau démographique et familial du pays. Dans le contexte actuel, c'est plutôt un bon signe, ça veut dire que la succession ne se fait pas dans la rupture, ni dans une volonté de normaliser l'Église géorgienne selon des attentes idéologiques de certaines chancelleries occidentales. Elle s'inscrit au contraire dans la fidélité à ce que la Géorgie est profondément une nation chrétienne, familiale, enracinée et soucieuse de préserver son âme.
Alors, en quoi cette succession devient aussi une affaire géopolitique ?
Alors, parce que Chio III arrive dans un moment très délicat. La Géorgie est politiquement divisée, elle reste sous la menace russe. Depuis la guerre de 2008, environ 20% de son territoire échappe toujours au contrôle de Tbilissi avec l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud. Mais elle subit aussi une autre pression, venue cette fois d'Occident, lorsqu'on lui explique que son rapprochement avec l'Europe devrait passer par une forme d'alignement idéologique. C'est tout le drame géorgien. Le pays ne veut ni redevenir une dépendance de Moscou, ni renoncer à son identité chrétienne pour plaire à Bruxelles. La Géorgie veut être européenne sans être déracinée. Elle veut être souveraine sans être isolée. Elle veut regarder vers l'Ouest sans être sommée d'abandonner sa foi, sa famille et ses traditions.
Alors faudrait-il nier pour autant l'influence de la Russie ?
Alors absolument pas, faut pas être naïf. La Russie sait parfaitement utiliser le vocabulaire religieux, tradition, valeur, orthodoxie, défense de la civilisation chrétienne, et elle le fait souvent pour servir ses propres intérêts. C'est pourquoi l'indépendance de l'Église géorgienne est essentielle. L'orthodoxie géorgienne n'est pas une annexe de Moscou, elle a son histoire, sa dignité, son autonomie. Mais l'influence ne vient pas seulement de Russie. Elle peut aussi venir de l'Occident. Quand au nom de la démocratie, on prétend expliquer à un peuple comment il doit voter, vivre, penser et parfois même croire. D'un côté, Moscou voudrait influer par l'orthodoxie, et de l'autre, Bruxelles voudrait imposer son catéchisme progressiste et nihiliste. Entre les deux, il y a un peuple qui veut rester lui-même.
Alors que peut incarner Chio III ?
Alors, Élie II fut le patriarche de la reconstruction, celui qui a accompagné un peuple de la nuit soviétique à l'indépendance, de l'effacement religieux au retour de la foi comme colonne vertébrale nationale. Chio III, lui, devra être le patriarche de la fidélité et de l'unité. Il reçoit une église forte, mais placée au cœur d'une bataille d'influence. Il devra protéger l'unité du peuple géorgien, l'indépendance de son église et cette voie difficile, être chrétien sans être soumis à Moscou, européen sans être déraciné par Bruxelles. Son profil conservateur peut justement l'aider à tenir cette ligne. Non pas pour enfermer la Géorgie dans un passé, mais pour rappeler que l'ouverture au monde n'exige pas l'effacement de soi. Un peuple peut dialoguer avec l'Europe sans renoncer à sa foi. Il peut vouloir la modernité sans renoncer à la famille. Il peut être souverain sans être isolé. Alors, encore faudrait-il que l'Europe accepte cette évidence. La démocratie, ce n'est pas seulement accepter que les peuples votent, c'est aussi accepter qu'ils demeurent ce qu'ils sont, avec leur histoire, avec leur foi, avec leurs blessures, avec leur liberté. Et si l'Europe n'est plus capable d'accueillir une Géorgie chrétienne souveraine et conservatrice, alors c'est peut-être que c'est pas la Géorgie qui s'éloigne de l'Europe, c'est peut-être l'Europe qui s'éloigne de ce qu'elle est et de ce dont elle a hérité.
Bravo, belle conclusion. Merci beaucoup François-Xavier Jiquel et à très vite ici sur Ligne Droite.
Ligne Droite, la revue de presse de Gilles Brochard.
Bonjour Alexandre.
Bonjour Gilles.
Bonjour chers auditeurs, bonjour Arnaud.
À la une de l'Express, Ursula von der Leyen, présidente sans limite.
Oui, la plus détestée des femmes politiques est à la tête de la Commission européenne et Marion von Rettingham, grand reporter, a enquêté sur celle qui a donné à son mandat une dimension géopolitique inédite jusqu'à incarner l'Union européenne. Alors, quitte à outrepasser le cadre de cette mission, vous savez, l'Espagnol Josep Borrelli, qui fut l'un des vice-présidents de l'UE pour les affaires étrangères, confie « La Commission n'a pas de compétences en politique extérieure et de défense. Tout le problème d'Ursula von der Leyen est qu'elle a voulu les avoir et elle a fait comme si elle les avait, ce qu'elle voudrait être en contradiction avec ce qu'elle est censée être. » Alors, l'article 17 du traité de l'UE dispose en effet que la Commission assure la représentation extérieure de l'Union à l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par les traités. Alors, à lire ce portrait, tout en contraste qui montre une femme isolée mais puissante, qui en fait toujours trop, qui suscite l'enthousiasme chez les partisans d'une Europe fédérale, franco-compatible et qui a bénéficié dès le départ des faveurs de la France et surtout d'Emmanuel Macron. Donc à lire dans l'Express.
Et puis le rédacteur en chef de Valeurs Actuelles vient de publier La Cendre et le Feu.
Oui, alors le slogan de cet essai est simple, ce livre ne définit pas la droite, il la révèle. Et dans Valeurs Actuelles, justement, le journaliste Valentin Gore, que l'on connaît bien ici à la radio, a écrit sur 4 pages une critique éloquente, élogieuse et sans doute méritée. Le titre du papier est « La droite au fond des yeux » et l'on comprend que Tuc du Haldenis a mené une enquête intime au plus près des hommes et des lieux. Même s'il vient d'une famille qui préfère Solzhenitsyn à Potemkin et donc Jean Pax Méfray à Jean Ferrat, écrit Valentin Gore, nous pourrions citer le titre de cette chanson du compagnon de route du Parti communiste, Nul ne guérit de son enfance. Mmh. Ainsi, Tugdual Denis dresse le portrait d'une bourgeoisie catholique décidée à se dresser contre la fin d'un monde. Nous avons tous cotisé pour Enfants du Mékong et pour les apprentis d'Auteuil, écrit-il dans son livre. On nous sensibilisait au sort des chrétiens du Liban et de l'école privée hors contrat. Et puis, il parle de ses rencontres. Alors, ses rencontres, par exemple, avec Jean-Marie Le Pen à Montretout, à Rueil-Malmaison, mais aussi sur leur terre commune, Carnac, la Trinité. Il raconte cette scène incroyable où un jour, ayant très mal au dos, causé par une hernie discale, le président du Front National se propose de lui soulager cette douleur au moyen d'un baume américain. Une fois que j'ai le buste penché sur la table du jardin, mon t-shirt relevé, note-t-il, le voilà qui étale à la main consciencieusement ce produit sur mes lombaires endoloris. Et comme le dit avec humour le journaliste, bien la première fois que le frontiste passait la pommade à un journaliste. Autre scène insolite que raconte celui qui est devenu l'ami de François Fillon, jusqu'à écrire un essai sur lui, au cours d'un dîner organisé par Mgr Rouget, l'évêque de Nanterre, où assistent François Fillon et Manuel Valls, ils devisent ensemble sur le thème de la foi avant de se mettre à prier tous ensemble. Mais voilà, conclut Tugdual Denis, ma conscience politique est restée bloquée en 2017. Depuis cette date, au goût de cendre, je n'ai pas trouvé mieux que le fillonisme. En devenant ami avec son idole, j'ai réalisé le rêve de ma vie. Alors, et c'est avec cet interlocuteur mis sur la touche qu'il discute le plus souvent en dehors de sa femme, dit-il, à lire ce long et passionnant portrait dans Valeurs Actuelles.
Et puis Eugénie Bastier aussi a écrit sur le livre de Tugdual Denis dans le Figaro aujourd'hui.
Bah oui, les grands esprits se rencontrent. Elle écrit « Il y a quelque chose de balzacien dans cet itinéraire où l'ambition et la loyauté s'entremêlent, où le désir d'en être et la peur de décevoir s'affrontent. La droite est une histoire de fidélité, mais aussi de querelle intestine. » Tugdual Denis raconte dans une des très belles pages, les retrouvailles entre François Fillon et Philippe de Villiers, jadis brouillés, mais réconciliés par une photo de famille. On aura besoin de tout le monde en 2027, lui lance le fier Vendéen dont il tire un portrait terriblement attachant. Le poison de la gauche et le dogmatisme, celui de la droite, la division. Et comme l'écrit Tugdual Denis, les rancunes ont la vie longue dans mon camp. Sur le palier de nos convictions communes, nombreux sont les voisins qui ne s'adressent pas la parole. Voilà tout l'enjeu, conclut Eugénie Bastier, et de savoir si l'avenir de la droite ressemblera à une réunion de famille ou un syndic de copropriété.
Et puis vous vouliez ouvrir une page sportive avec l'ouverture du tournoi de Roland-Garros où se jouent les internationaux de tennis.
Oui, alors que les matchs sur terre battue ont commencé.
Vous avez des places pour moi ?
Bon, on verra ça après. Paris Match. Oui, c'est pas très loin de notre radio d'ailleurs. Hein. Paris Match révèle quelques chiffres impressionnants. Par exemple, savez-vous que le cours Philippe Châtrier compte 212 loges réparties en 4 catégories, diamant, or, argent et ivoire, pouvant accueillir de 4 à 36 personnes. Les abonnements sont renouvelés par contrat tous les 3 ans et s'arrachent à des prix exorbitants. Alors une loge de 4 places pour toute la quinzaine se commercialise autour de 100 000 euros. Moins cher qu'à Wimbledon, mais quand même, ce fameux programme d'hospitalité représente un pilier financier essentiel pour la Fédération française de tennis, environ 20% du budget du tournoi, dévoile Mathieu Bosquet, responsable de la billetterie, et soit, selon Loïc Grasset, le journaliste de Paris Match, une estimation de 80 millions sur les 400 millions d'euros de chiffre d'affaires attendu. Alors précisons que le traiteur, par exemple Potel et Chabot, sert entre 6 000 et 7 000 couverts par jour hein, dans une soixantaine d'espaces de réception. 130 000 sandwichs, 215 000 boissons fraîches sont vendues pendant le tournoi. Et le tournoi accueille pendant 15 jours 480 000 spectateurs. Oui. Ça fait 2,2 millions d'euros de prix pour les gagnants des simples, ce qui est pas mal. À lire dans Paris Match avec une... Alors en tête, en couverture, mais je pense que vous le voyez pour ceux qui sont sur YouTube, une Kate Middleton qui a triomphé en Italie récemment, elle qui est fondatrice du Centre pour la Petite Enfance de la Fondation Royale et qui fut accueillie comme une star mondiale. Même photo ou presque à la une de Point de Vue avec ce titre, le triomphe de Kate en Italie. Voilà, on verra pour vos places après.
Merci Gilles, merci. Écoutez, merci pour les places que vous allez bientôt m'offrir. Zone libre.
Zone libre.
Et c'est la fête pour la zone libre où effectivement tout le monde est présent ce matin. Alors, bon, on va commencer peut-être par Richard de Sèze qui voulait venir dans cette zone libre, qui voulait s'exprimer.
Oui, les gens de la flottille pour Gaza ont été arrêtés par les troupes de Ben Gvir, le ministre de l'Intérieur, et les gens sont scandalisés. On a vu des prisonniers politiques courbés, les mains liées dans le dos, la tête baissée avec Ben Gvir en train de dire « Haha, bienvenue chez nous ». Et les gens disent, mais c'est un scandale. Il y a 3300 détenus palestiniens dans les geôles israéliennes dont on ne parle pas. Ils sont en détention administrative, ça ne veut rigoureusement rien dire. Voilà. Et là, les chancelleries ne s'émeuvent pas. Il y a 230 détenus décédés entre 1967 et 2023 dans les geôles palestiniennes. Et il y en a 100 de plus depuis 2023. Les gens meurent en prison en Israël quand on est palestinien et les gens ne s'en émeuvent pas. Il y a des gens qui sont en train de mourir de faim dans les prisons israéliennes parce que Ben Gvir a décidé, je le cite, de transformer les prisons israéliennes en enfer. Et les gens ne s'en émeuvent pas. Et Ben Gvir, évidemment, a fêté au champagne la loi prévoyant la peine de mort pour les Palestiniens accusés de meurtre. Et donc, en expliquant, avec l'aide de Dieu, nous tuerons nos ennemis et les chancelleries ne s'en émeuvent pas. Voilà. Donc, je tiens à dire à tous ceux qui s'émeuvent du sort des militants français et italiens, à juste titre, qu'on traite comme de la merde, qu'en fait, les Palestiniens sont traités comme des moines de la merde. Et que là, par contre, on les entend pas.
Le problème, c'est qu'on voit les images. C'est les images qui font réagir les gens, mais on voit pas les images.
Parce qu'on a le droit, photographier des prisonniers qui ne sont pas palestiniens, mais les journalistes sont totalement interdits, évidemment, dans les zones gouvernées par l'État d'Israël, qui explique bien sûr qu'il est un État moral, qui respecte toutes les règles qu'il se donne à lui-même.
Mais peut-être que Itamar Ben-Gvir est confondu avec Satan, peut-être. C'est pas tout à fait impossible dans ce cadre.
Je ne vous suis pas.
Vous êtes peut-être pas compétent en théologie, mais effectivement.
Non, mais ce qui était étonnant, c'est de voir le ministre houspiller le Premier ministre. Moi j'ai vu l'image qui sera impossible en France d'ailleurs, c'est pas possible ce qui se passe là.
Maëlys Clauzel, est-ce que vous voulez partir sur un sujet peut-être plus léger parce que là c'est quand même un petit peu brutal,
un peu plus drôle, un peu plus amusant. Exactement. Je vais vous parler d'un buffle qui est absolument devenu une starlette en fait au Bangladesh, puisque ce pauvre buffle a le malheur de ressembler à Donald Trump. Arnaud, si tu veux bien nous projeter cette petite photo. Voilà, donc la ressemblance
Moi je dirais plutôt que c'est le buffle qui ressemble à Donald Trump.
Ah oui, mais c'est ça. Et d'ailleurs, le buffle s'appelle Donald Trump.
Ah bon, voilà,
le propriétaire du buffle au Bangladesh a donc surnommé ce pauvre buffle Donald Trump. Voilà,
chers auditeurs. Et depuis, il vend ses saillies beaucoup plus cher.
Je sais pas s'il envahira l'Iran, lui. Mais
je suis pas sûr. Pas, mais
il vaut mieux être son ami quand même là.
Ouais, effectivement. Mais bon, alors Gilles, vous en pensez quoi des buffles?
Moi, j'aime beaucoup les animaux. Moi, vous savez, mon amour des animaux en Inde et moi, j'ai vécu avec des éléphants. Alors, c'est autre chose. J'ai même fait la toilette des éléphants. J'ai donné à manger à des bébés éléphants. Vous savez qu'il y a 10 000 muscles dans une trompe d'éléphant quand ils vous saisissent la main.
Muscles.
Et c'est extraordinaire. C'est un côté affectif formidable parce qu'ils ont un rapport à l'humain. Quand on s'intéresse à eux, ils vous le rendent au centuple. Non, mais c'est vrai ce que je dis. C'est assez étonnant.
Ouais. Pour nous préparer une chronique.
J'ai vécu dans le parc de Sichuan quelques jours et j'avais mon éléphant qui m'attendait le matin. On partait à la recherche des tigres.
Tous les deux. Deux amis. Aucun président français n'est capable d'une telle affection.
Ça ressemble à une femme de Fontaine, au final. Gilles et
l'éléphant. Mais je parlerai bientôt des chauves-souris, justement.
Très bien. Mais j'adore le fait que cette zone libre soit devenue vraiment un refuge animalier pour l'actualité. C'est absolument formidable. Merci beaucoup, Maëlys Clauzel. Merci beaucoup, Richard de Sèze. Merci beaucoup, Gilles Brochard. Et merci à vous, chers auditeurs. C'est la fin du direct sur YouTube et sur X. Ça a été un plaisir pour moi de passer cette matinale avec vous. Si vous voulez que ça se poursuive ici sur Radio Courtoisie, cependant, on va vous demander un petit effort.
Si vous souhaitez nous soutenir financièrement, vous pouvez le faire en nous en aidant en ligne sur cette adresse. Notez-la bien, soutenir.rc.fr. Et puis, vous pouvez également adresser vos chèques à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75 016 Paris.
Voilà, et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Nous allons désormais écouter le Debout les Français. Un maire RN répond aux attaques de la gauche. C'est avec Aurélien Lopez-Digori, maire d'Agde.
Ligne droite. Debout les Français.
Et pour ce premier entretien, nous allons parler des attaques de la gauche contre les mairies RN. Et pour ça, qui de mieux pour en parler qu'un maire Rassemblement National, Aurélien Lopez-Digori, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes anciennement député et désormais maire RN de la ville d'Agde. Alors, la raison pour laquelle on vous a invité aujourd'hui, c'est d'abord que, la gauche, depuis votre élection, depuis l'élection, les dernières municipales, se met comme en tête de réaliser une offensive contre les mairies RN. Je pense notamment à l'observatoire des mairies RN qui a été lancé. Voilà, émanation de l'observatoire de l'extrême droite. Et là d'ailleurs, la députée Manon Aubry a récemment dressé une sorte de grande liste dans laquelle, voilà, députée Manon Aubry qui est LFI, je rappelle, une grande liste dans laquelle elle va expliquer tout ce qu'elle trouve abominable dans ce que réalisent les maires RN. Et là, elle met en cause la ville d'Agde, notamment sur la question de la réduction du festival du cinéma, la réduction des concerts gratuits sur la scène flottante. En autrement dit, vous vous en prendriez à la culture.
Manon Aubry s'intéresse à Agde, très bien. Je pense que c'est des attaques absurdes. Ils sont en train d'essayer de trouver des biais pour attaquer des mairies RN. Alors là, ils ont trouvé le monde de la culture, mais ils n'ont jamais géré une ville, ces gens. Ce qu'il faut savoir, alors moi, j'ai supprimé 2 jours sur six de festivals de cinéma, et j'ai supprimé une date sur 4 d'un concert de musique, enfin qui est sur plusieurs jours. Pourquoi? Parce que j'arrive dans une ville avec un budget qui est insincère, que je dois trouver 2 millions d'euros d'ici le 5 juillet, et que donc je dois faire des efforts partout. Mais j'en fais sur la culture, j'en fais sur les heures supplémentaires, j'en fais sur les RH. Je demande à mes services d'en faire. Et c'est quand vous voulez gérer une mairie en bon père de famille, ben il faut faire des arbitrages. Mais en même temps, on est en train de relancer une fête traditionnelle à Agde qui avait disparu autour des joutes, autour de nos traditions occitanes et agatoises qu'on va faire cet été, qui va durer pendant 3 jours et qui est une activité culturelle supplémentaire. Donc bon, ça c'est, je pense que Madame Aubry cherche juste à attaquer des maires RN, mais la vérité, c'est que l'entrée en fonction de ces maires s'est faite de manière impeccable, qu'il n'y a pas de polémique, tout se passe très bien, les habitants sont contents.
Alors si, Aurélia Lopez-Ligori, mais il y a eu une polémique, on recevait d'ailleurs le maire en question à ce sujet, je pense par exemple à Hervé de Lépineau, qui lui justement a subi une polémique d'ampleur nationale sur la diffusion qui, encore une fois je le rappelle, n'était pas de sa responsabilité, on l'a compris par l'enquête, mais de la musique Maréchal Nouvola dans les rues de sa ville pour le 8 mai.
L'extrême gauche ou que la presse crée des polémiques contre le RN, ça c'est une vérité absolue, mais ça sera toujours le cas. Par contre, que le RN les engendre, là pour le coup tout se passe très bien dans ces villes.
Ouais. Et alors justement, question comme ça, c'est que vous faites partie de ces jeunes maires déjà et de ces nouveaux maires en réalité qui justement ont créé un petit peu la surprise durant ces dernières élections municipales. Est-ce que vous diriez que être un maire RN dans le fond, c'est être un maire comme les autres, ou est-ce que vous sentez que vous avez un statut particulier, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau local ou dans votre manière de gérer la ville?
Or, c'est sûr qu'on sera plus scruté que les autres, donc on n'est pas tout à fait normal, mais du moment où on est maire, moi j'étais député avant d'être maire, j'étais le député de pas uniquement le député du RN. Député est une fonction, on représente des Français. Maire, c'est exactement la même chose, je représente ma ville. Après, je pense que c'est une patte. Moi, aujourd'hui, je rentre dans une mairie, j'ai 1200 employés, 127 millions de budget, c'est la première station balnéaire de France, la quatrième d'Europe, c'est le Cap d'Agde. Il y a, je pense, une manière de gérer que moi je veux apaiser, que je veux très direct, carte sur table avec les citoyens. Moi, je communique de cette manière. Et c'est des choses qui sont faites de manière générale que par des maires. Et le côté bon père de famille aussi. Et quelque chose qui est très développé, je vois aussi par mes collègues, on n'est pas du tout concerté, et pourtant c'est de manière générale ce qu'on est tous en train de faire.
Alors, la dernière fois qu'un maire a été élu à Agde, il s'agissait de Gilles, alors je sais pas comment on prononce son famille, Gilles Détor, qui est désormais condamné pour vraiment de nombreux scandales assez ubuesques, on va dire. Qu'est-ce que ça fait pour vous aujourd'hui, en réalité, on se doute que ça vous a sans doute un peu aidé à être élu, mais dans le fond, quelles ont été les conséquences, finalement, au sein de la ville, des frasques de Gilles Détor?
Bon, après, il y a une enquête qui est encore en cours, mais c'est vrai que on récupère une ville qui est un peu traumatisée. Mmh. Et l'un des premiers chantiers que j'ai à mettre en place, c'est regagner la confiance des Agathois, qui avaient perdu la confiance en leur mairie, très clairement, et qui avaient une administration qui fonctionnait, mais pour autant qui était un peu, je dirais pas à l'arrêt, mais enfin, qui faisait les affaires courantes. Mmh. Donc là, on arrive derrière, c'est assez dur, parce qu'en fait, bon, on voit le côté élection, je suis le maire d'Agde.
Vous avez peut-être expliqué en un mot à nos auditeurs, justement, de quoi est accusé Gilles Détor, et un petit peu expliquer quel était son rapport avec les habitants, justement, lié à ça.
Alors, c'était un maire qui était très apprécié, extrêmement apprécié à Agde, et c'est surtout ça qui a traumatisé les gens, c'est que du jour où même il y a cette affaire qui arrive, après, il est pas jugé, il est toujours présumé innocent, moi j'y tiens. Mais donc c'est une affaire avec une voyante. C'est assez long, mais j'invite les auditeurs à taper affaire voyante Agde.
Ouais. C'est effectivement, ce que j'allais dire, c'est que c'est une affaire à suspense, donc effectivement, oui. On invite les auditeurs à regarder. Mais donc effectivement, donc une confiance à rebâtir, et même sur, on sait que, justement, on en discutait également avec Hervé de Lépineau il y a peu de temps, mais on sait que généralement, dans ce genre de cas, on retrouve aussi la ville avec une certaine dette, avec une situation économique compliquée. Vous parliez de trouver 2 millions d'euros d'ici début juillet, expliquez-nous.
Bon, en gros, j'ai l'État qui me demande 1,3 million, enfin, j'ai des rentrées fiscales en moins de 1,3 million d'euros de l'État, qui n'étaient pas prévues dans le budget. J'ai une amende SRU, vous savez, c'est les HLM, j'ai pas assez d'HLM à Agde, donc j'ai 700 000 euros supplémentaires. J'ai eu des dégâts à cause des inondations, j'ai pas mal de choses qui se sont accumulées. J'ai aussi mon projet à mettre en place, puisqu'il me reste 8 mois. Comme beaucoup de municipalités, mais pendant les 3 mois de campagne électorale, ces municipalités, moi en tout cas la mienne, a cramé la caisse.
Ouais.
Donc, il faut que je tienne jusqu'au bout de l'année. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et j'ai un budget à construire. Mais aussi, quand on arrive dans une mairie, il y a, je pense, un fait important. On pense qu'on arrive maire et on devient le patron de l'administration. Mmh. C'est pas exactement le cas. Quand vous arrivez, et qui plus est, moi, à Agde, avec ces traumatismes qu'il y a eu, vous devez gagner la confiance de l'administration, vous devez travailler avec elle, et le temps qu'elle vous suive et que les choses fonctionnent et qu'il y ait une certaine réactivité, ça prend quand même un certain temps. Et nous, c'est la relation qu'on est en train de construire en ce moment, et c'est... je pense... Pour tout le monde, quand on rentre dans une mairie, il y a au moins 7-8 mois d'acclimatation et de prise en main des services.
Et alors, justement, maintenant que vous devez effectivement trouver cet argent, remettre tout cela en place, quels sont les leviers que vous allez utiliser ? Parce que d'une certaine façon, c'est toujours la même question, le même objectif pour de nombreux maires du Rassemblement National, c'est à la fois éponger la dette, à la fois retrouver un budget sain, et puis de ne pas augmenter les impôts locaux. Alors comment vous réalisez cette équation ?
Le fonctionnement. Aujourd'hui, je suis en train de faire 3 audits. Un audit sur les finances publiques, un audit sur ma commande publique et un audit sur le pilotage de ma masse salariale, comme pourrait le faire en fait un chef d'entreprise. Et le but, c'est de tirer le fonctionnement sans impacter le service rendu aux Agathois, aux habitants. Mmh. Mais quand vous êtes dans une mairie avec 1200 employés, je peux vous dire que vous avez quand même des marges de manœuvre. Moi, j'ai une chance, c'est que j'ai un tiers de ma masse salariale qui part à la retraite dans les 4 prochaines années. Donc, ça permet aussi de chercher dans du fonctionnement. Mais il y a plein de choses. Moi, par exemple, j'arrive, on parlait de festival sur la de musique où j'ai supprimé une date. Il y avait des caisses de diplomatico qui étaient achetées par la municipalité sur le Le festival de cinéma, c'était des caisses de champagne avec des tapis rouges, des restaurants, ouais. Des frais de restauration qui étaient démentiels. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on est en train de mettre en place aussi. Je suis arrivé dans une mairie. Enfin, on est en train de supprimer ces lignes budgétaires. Et moi, je suis arrivé dans une mairie. Depuis 2 mois, j'ai pas été au restaurant sur les frais du contribuable. Mmh. C'était pas le cas de mes prédécesseurs qui étaient pas tous les jours, mais voilà.
Ouais.
Et c'est plein de choses à faire. C'est une gestion en bon père de famille, comme vous gérez votre budget ou comme vous gérez une entreprise.
Mais alors, le bon père de famille, il peut aussi avoir des projets justement pour sa famille. Alors vous, justement, à Agde, qui est une ville quand même particulièrement touristique, qu'est-ce que vous cherchez? Vous parliez de relancer une tradition locale. Qu'est-ce que vous cherchez à réaliser pour votre ville, qui est quand même une ville de 30 000 habitants, donc théoriquement qui est touristique et donc théoriquement qui doit avoir des projets?
Alors, c'est une ville de 30 000 habitants, INSEE, vous avez raison, mais c'est une ville qui est considérée par l'État comme une ville de 120 000, 130 000 habitants. Puisque nous avons l'été 300 000 habitants, au maximum à Agde, entre 250 et 300 000 habitants. Et au jour le plus bas, la semaine la plus basse de l'année, c'est la troisième semaine de janvier, on a 54 000 habitants. Mmh. Ce qui fait qu'en moyenne, dans l'année, on est au-dessus des 100 000. Mmh. C'est une grosse machine. Il y a beaucoup de choses à faire. Déjà, je pense qu'on a tous, quand on arrive, envie d'embellir sa ville. Moi, j'arrive dans une ville qui a beaucoup d'infrastructures, mais qui a des infrastructures vieillissantes. Et la campagne, on a accès aussi sur ça. Je ne fais pas des grands projets. J'en ai quelques-uns, comme la création d'un musée de la Grèce antique, puisque Agde est une ville qui a 2600 ans d'histoire. Elle a été créée par les Phocéens au même moment que Marseille.
Eh ben, je ligure.
C'est Marseille et Agde sont les deux plus vieilles villes de France. Donc, il y a toute une histoire à retrouver où on va travailler dessus. Mais voilà, Agde est la première station balnéaire de France. Elle fut l'une des plus grandes d'Europe, ce n'est plus le cas. J'ai envie de revenir à ça, que Agde redevienne un lieu de fête. Ça a été aussi le Ibiza français à une période. Mmh. Et il y a beaucoup de choses à faire sur l'attractivité touristique de la ville, sur la sécurité, sur les infrastructures du quotidien. Mais ça, c'est aussi un peu le quotidien de tous les maires de France.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Aurélien Lopez-Ligori. Effectivement, on vous souhaite bon courage pour tous les chantiers qui s'annoncent devant vous. Et on vous dit à très bientôt, ici, sur Ligne Droite.
7h, 10h sur Radio Courtoisie, Ligne Droite, avec Alexandre de Galzin.
Chers auditeurs, merci d'avoir été avec nous ce matin ici sur Ligne Droite, la matinale de Radio Courtoisie. Cependant, pour que ces matinales se poursuivent, pour que nous puissions produire ce contenu que vous appréciez tant, pour que vous puissiez même le retrouver en podcast de manière gratuite sur toutes les plateformes, c'est une nouveauté de Radio Courtoisie, eh bien nous avons besoin de vous.
Nous avons besoin de votre soutien financier en tout cas. Vous pouvez nous aider en nous faisant des dons en ligne sur soutenir.rc.fr. Et puis également, nous envoyer vos chèques par la poste à Radio Courtoisie, 61 Boulevard Murat, 75016 Paris.
Voilà, et puis je rappelle aussi que si vous nous suivez sur YouTube en direct durant la matinale, vous pouvez nous faire des dons dans le chat, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Ça nous permet de vous remercier en direct également. Et puis voilà, n'hésitez pas à participer. Quel est le programme du jour, Arnaud Parangin?
Vos grands rendez-vous de ce 21 mai, tout à l'heure à midi, le libre journal des entrepreneurs dirigé par Louis Laboca et Uxeraption, le redressement et la cession d'une télévision régionale. À 14h, libre journal des traditions dirigé par l'abbé Alain Laurence, pèlerinage de Pentecôte de Chartres à Paris du 23 au 25 mai 2026, le concert spirituel à Saint-Nicolas du Chardonnay et la 3e université d'été, Pax Louris du 2 au 5 juillet 2026. À 15h30, libre journal de la réaction dirigé par Hélard Le Crémier, l'histoire de l'Algérie de 1848 aux années 70 suite. Sur Soum Corda à 17h avec l'abbé Mathieu Raffray consacré à la tradition. À 17h30, restons courtois avec Marc Hainaut. Ce soir en direct, la politique rend-elle pessimiste avec Laurent Dandrieux, Edwige Diaz et Charles Rodwell. À 19h30, le libre journal de Jacques Trémollet de Villers dirigé par Hilaire De Crémier. Vitraux de Notre-Dame, le couple élu veut travestir Notre-Dame en présence de Poi Condens Designer. À 21h30, le Libre Journal des Chevaux Légers, dirigé en direct par Luc Le Garsmeur. Et puis à 23h, les soirées musicales en compagnie de Stéphane ce soir. Voilà, vous savez tout.
Eh ben, ça en fait des choses. Eh ben, écoutez, moi je précise tout d'abord une chose, c'est que lundi prochain, il n'y aura pas de matinale de Ligne Droite, pas en direct en tout cas. On fera une compilation comme on l'a fait sur les jours fériés. Et sinon, eh bien écoutez, Richard de Cesse vous retrouvera demain 7h et moi 8h45 pour ma chronique blague. Donc à demain.
À demain.